de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Je suis en compagnie d'Yves Gourina, un organiste et professeur de physique et structure. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Nous allons aborder aujourd'hui les thèmes célèbres. En parlant de célèbres, est-ce une vision populaire ?
Populaire ne veut pas dire populiste. C'est-à-dire que le fait qu'une figure musicale se répande et soit dans tous les cœurs et sur toutes les lèvres prouve souvent sa grande valeur, sa puissance. Car en vérité, c'est ce que nous allons découvrir, je pense, au cours de l'interview, ce qui fait la popularité et la vectorisation d'un thème, c'est tout simplement la résonance qu'il donne émotionnellement parlant.
Pourquoi certaines mélodies sont-elles plus attractives que d'autres ? Donc le vecteur est peut-être le passage d'une simple mélodie orale, puisqu'effectivement c'est peut-être là l'aspect populaire qui peut se chanter peut-être.
Tout à fait. Alors, quelque part, il y a des paroles. Vous avez raison. Alors, c'est très étrange d'ailleurs, parce que même une mélodie pour violon, il peut y avoir des paroles derrière, car elles ont un contexte. Alors évidemment, dans le domaine liturgique, c'est évident, mais même dans le domaine de la musique, en général, si vous voulez, quand on joue un adagio de Beethoven, par exemple, il y a un contexte émotionnel, c'est-à-dire que quelque part, il y a derrière chaque note une signification de quelque chose. Prenons par exemple le choral Vater Unser. Et Himmelreich. Alors, le monde luthérien, effectivement, il plaide cette symbolique, mais quand on y regarde de près, le monde grégorien également. Vater Unser im Himmelreich, c'est une mélodie qui n'a l'air de rien du tout. En ré mineur, di di da da di da da da, c'est quelques notes. Mais quand on regarde ce qu'il y a derrière ces quelques notes, d'ailleurs dans le mode mineur, avec une résonance très forte du point de vue presque nostalgique, il y a la grande prière des chrétiens, notre Père. Tout ce que ce mot porte de puissant.
Cependant, donc, certains compositeurs l'ont repris dans leur mélodie ou dans leur contexte pour trouver peut-être un discours musical qui s'adapterait à la sensibilité de leur composition.
Vous dites qu'ils l'ont repris, moi je dirais qu'ils l'ont reprié. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien oui, tout simplement, ils se sont assimilés cette mélodie par le cœur. C'est-à-dire qu'ils l'ont joué véritablement par cœur. Non, par le cœur. Alors, on peut citer plein d'exemples sur le Vater Unser, mais sur plein d'autres mélodies. Par exemple, pour les luthériens qui venaient écouter Bach, par exemple, ils ont un peu de fiction. Disons qu'on va écouter Bach au temple, là, voilà. Et on l'entend, par exemple, qui vient jouer un choral de Noël. Di, di, da, di, di, da, di, da. Viens maintenant, sauveur des païens. Si vous voulez, on n'a même pas besoin d'entendre les paroles. Quelque part, on sait qu'on est à la Noël. Et on se prépare, alors on est soit dans l'Avent, soit dans Noël, on se prépare à la venue du Sauveur. Et il y a, si vous voulez, tout un message codé qui fait que quand on entend ces mélodies quelque part, eh bien, il y a l'assimilation à l'intérieur. Alors, c'est très amusant d'ailleurs, parce qu'il y a le compositeur, l'improvisateur, qui se le prie à l'intérieur, mais il y a l'auditeur qui prie avec lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un peu compliqué, mais bon, je crois.
Il y a la mélodie, en fait, qui suit aussi le texte, ça s'appelle du syllabisme, et donc justement, c'est un effet de mémorisation que l'on rapporte chez soi.
C'est de la psalmodie, en fin de compte.
Oui.
Et finalement, tout à fait, alors les psaumes hébraïques, effectivement, étaient alphabétiques, étaient psalmodiés, d'ailleurs avec une gestique en même temps, qui permettait de les mémoriser. Donc c'est une méthode humaine pour vivre les paroles de l'intérieur.
Certains compositeurs font appel à d'autres compositeurs, notamment Mendelssohn.
Il reprend un héritage commun à Johann Sebastian Bach, puisque le choral Vater Unser de la sixième sonate, puisque vous faites allusion là à la sixième sonate de Mendelssohn, eh bien reprend ce choral que Bach connaissait déjà, mais dont il n'était pas l'auteur, et qui faisait partie du patrimoine génétique de l'Église, si vous voulez. Donc, effectivement, alors, en effet, Mendelssohn le reprend pour lui. Vous avez raison.
Mais aussi, c'est un rendre hommage à un compositeur.
Bach, complètement. Et d'ailleurs, pas qu'à Bach, parce que tous les grands compositeurs, Buxtehude a également paraphrasé le Vater Unser, Walter a paraphrasé, tous les compositeurs ont paraphrasé. Mais Mendelssohn aussi, vous avez raison.
Dans ce cadre, y a-t-il un mécanisme de composition pour que effectivement la mélodie soit plus attractive qu'une autre ?
Alors c'est une très bonne question. Si on avait la réponse, ce serait vraiment intéressant. Alors moi je pense que oui, il y a quand même un mécanisme, mais c'est pas un mécanisme simple. Le mécanisme, c'est d'être à l'écoute de l'émotion intérieure, c'est-à-dire d'entendre quelque part l'esprit qui chante en nous. Alors évidemment, on peut appeler ça l'inspiration d'ailleurs. Et les compositeurs, eh ben, c'est ce qui leur arrive. Si on demandait à Beethoven, d'où as-tu sorti le thème de la 5e symphonie ? Difficile. Alors il répondait, c'est le destin qui a frappé à ma porte, ces trois coups là, pam, 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 pam. Oui, d'accord, mais il faut quand même s'appeler Beethoven hein, pour avoir cette inspiration là. Donc oui, effectivement, il faut être à l'écoute.
Certains discours musicaux sortent un peu de l'ordinaire à tel point qu'il notamment il y a de la magie dans la mélodie et de la force qui est incontestable. Certaines mélodies restent plus que d'autres, ont un impact, notamment dans l'adagio de Barber.
Oui, ça va dans les adagios, vous avez raison, parce que ou dans l'adagietto de Mahler aussi, hein, qui est dans le film Mort à Venise, hein, qui on peut même dire c'est un des personnages du film, cet adagietto. Et oui, alors si vous voulez, il y a cet aspect. Vous avez alors la question est très profonde. Vous avez effectivement l'archet du violon qui va s'épancher. J'utilise ce terme volontairement. D'ailleurs, on pourrait presque dire l'archet du violoncelle. Vous voyez, visuellement, on voit l'archet du violoncelle qui s'épanche et qui vient presque se confier, si vous voulez, au musicien ou le musicien qui vient se confier à son archet. Et en effet, il vient confier sa mélancolie, son questionnement aussi.
Ces mélodies célèbres sont retranscrites souvent, non seulement sont reprises par des compositeurs, mais sont retranscrites soit d'orchestre à l'orgue ou d'autres instruments.
Comment c'est amusant ce que vous dites, parce que ça marche dans les deux sens. Alors, je peux prendre l'exemple de Messiaen, par exemple, hein, qui a commencé à écrire l'Ascension pour l'orchestre et qui ensuite l'a transcrit pour l'orgue. Et puis à l'inverse, il y a l'art de la fugue. Alors, l'art de la fugue, on ne sait pas très bien pourquoi ça a été écrit, mais ce n'était pas écrit pour l'orchestre, a priori. C'était de la musique pure, probablement pour le clavecin, voire pour l'orgue. Et Schoenberg, Arnold Schoenberg, l'a transcrit pour l'orchestre. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Il y a un exemple qui est tout à fait étonnant au niveau historique, qui est celui de Léopold Stokowski, qui a quand même eu l'audace de reprendre la grande toccata. La grande toccata, s'il y a une œuvre pour orgue emblématique, qui d'ailleurs n'était peut-être pas pour l'orgue au départ, hein, eh bien, il l'a retranscrite pour grand orchestre. Et c'est extraordinaire. Alors, Disney s'en est saisi, et il en a fait un film, là, Fantasia, avec des images absolument fantastiques. On voit des archets de violon, on voit même, à un moment, on voit une armoire qui balance la pa 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 quand il y a le coup de pédalier à la fin là, c'est tout à fait extraordinaire. Mais je pense que finalement le vecteur, l'instrument est en réalité un support de la pensée et que quelque part ce que vous dites là, l'incarnation peut se faire dans plusieurs sens. Et c'est ce qui fait la richesse de la musique.
Parfois, les mélodies sont ancrées pour des événements. La méditation de Thaïs, d'autres, pas justement cette
raison.
Mélodie de la toccata, sont entrées...
sont des états d'âme.
Oui,
captés
ou même...
à un certain moment, vous avez raison.
La toccata de Vidor qui est demandée, par exemple, pour des mariages,
oui,
ou la marche
nuptiale. Oui, tout à fait.
Et comment, en fait, une mélodie célèbre est interprétée ou interprète un événement ou devenue vraiment la caricature, on va dire, de...
Alors, Alors, je crois qu'il ne faut pas tomber justement dans la caricature, si vous voulez. Moi, je crois que c'est plus une question d'état d'esprit et que ce n'est pas tellement l'événement, mais l'état d'esprit dans lequel on vit l'événement. Donc, je ne parlerai pas de mariage et d'enterrement. Je parlerai de joie et de gravité. Alors, effectivement, il y a des musiques de joie, des musiques de gravité, mais vous savez, les deux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Si vous y regardez de près, et c'est extrêmement intéressant ça, dans les musiques les plus joyeuses, vous savez, Mozart a la réputation d'être léger, et Schubert a la réputation d'être tragique. Regardez bien de près, dans Mozart, la tragédie n'est jamais très loin. Il y a toujours du mineur derrière le majeur, c'est très étonnant. C'est d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle une fois en profondeur. Quand vous lisez les partitions de Mozart, d'abord on a l'impression que c'est facile. Quand on le joue, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile. Et on se rend compte que ça sautille pas tant que ça. Il y a derrière une angoisse, oui, j'ose le dire, une existentielle extraordinaire. Et à l'inverse, quand vous lisez, par exemple, les leaders de Schubert, qui sont basés quand même sur la mythologie allemande, qui, un petit peu comme la mythologie viking, on peut pas dire que ce soit quelque chose de très très gai, hein, c'est des histoires. Mais c'est tout à fait extraordinaire parce que derrière, dans Erl König par exemple, des choses comme ça, derrière ces accords qui sont mais sombres, alors c'est du mineur, du surmineur, voire même de la septième diminuée, eh bien derrière, on s'aperçoit qu'il y a toujours la lumière par derrière. Donc les choses ne sont pas simples.
On parlait d'adagio, il y a l'adagio de Barber peut-être, oui, oui. Et puis l'adagio d'Albinoni. Donc on
aussi
va entendre un extrait, oui, de l'adagio de Barber. Qu'est-ce que c'est qui capte l'attention
L'émotion. Je pense que c'est l'émotion. Alors en ce qui concerne Albinoni, puisque vous me cherchez là-dessus, vous savez que les musicologues sont pas sûrs que ce soit Albinoni qui l'ait écrit. Ce n'est pas très très grave, parce que l'émotion, vous voyez, je joue un peu avec les mots là, l'émotion elle est d'Albinoni, elle, effectivement, mais il est probable que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Un peu comme l'Ave Maria de Caccini, vous savez, le fameux Ave Maria de Caccini, en fait c'est un compositeur russe, Vavilov, qui l'a écrit, c'est un pastiche. Mais c'est pas grave. Vous savez, ce que je peux vous dire, c'est que même c'est un pastiche, l'émotion, elle n'est pas feinte.
Mais elle est quand même, c'est une mélodie célèbre, même
mais
si
oui,
elle n'est pas du compositeur.
Absolument.
Elle est devenue célèbre.
Elle est devenue célèbre, et c'est ça qui compte.
C'est l'effet de mémorisation.
Oui. Alors, mais c'est pas que la mémorisation, excusez-moi. Elle se mémorise parce qu'elle résonne émotionnellement.
Et parce qu'elle est transmissible aussi.
Et qu'elle est transmissible. Alors après, si vous me cherchez vraiment là-dessus, il y a aussi des intervalles là-dedans qui interviennent. Il y a la quarte qui est très forte, il y a la sixième qui est très forte aussi. Il y a un certain nombre de choses qui retombent sur leurs pattes, voilà, qui font que, vous voyez, comme dans la vocalise, par exemple, de Rachmaninoff, qui est une chose tout à fait extraordinaire. On peut analyser les accords et il y a des intervalles qui reviennent et qui ont une puissance émotionnelle extrêmement forte, si vous voulez, et qui polarisent l'attention, ce qu'on appelle l'oreille. En fait, c'est pas l'oreille, c'est le cœur, si vous voulez, qui prête attention à ce moment-là.
Dans ce sujet, les thèmes célèbres, il s'agit d'une mélodie du cœur.
Tout à fait, et qui peut revenir effectivement comme un leitmotiv. Alors, je ne veux pas faire des comparaisons déplacées, mais c'est quand même vrai qu'il y a des thèmes musicaux qu'on aime bien entendre revenir parce que ça rassure et que ça rappelle quelqu'un. Alors, les anciens connaissaient bien Laurel et Hardy. Il y avait une petite ritournelle qu'on entrait ta 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 ta. Si vous voulez, on évoquait tout de suite. Alors, évidemment, ça, c'est dans le genre amusant, bien sûr, ça fait rire. Mais il y a, si vous voulez, des thèmes comme ça qui ont une émotion tout à fait toute forte. Par exemple, l'adagio de Marcello. Il y a des gens qui l'avaient repris dans le générique de fin d'Antenne 2. Alors, en fait, c'était une adaptation de cet adagio, hein, qui avait une puissance émotionnelle tout à fait extraordinaire. Et quand on regarde, il y avait une mélodie très lente qui nous accompagnait pour terminer. Vous voyez, les génériques de fin, ben, on allait au dodo après, hein. Et si vous voulez, c'est un peu comme une berceuse, mais une berceuse qui nous dit, écoute maintenant de la tendresse et endors-toi dans la douceur.
Les thèmes célèbres sont les mélodies du cœur et aussi ça rassure les personnes.
On peut presque dire, vous avez raison, que les thèmes sont des personnages. Tout à l'heure, je disais que l'adagietto de Mahler était un personnage du film Mort à Venise. Je crois que c'est pas exagéré.
Merci Yves, dans l'émission de Pierre et de Notes.
Merci Blandine, à bientôt.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.